Accent d'Europe, Catherine Roland. Bonjour à tous et nous retrouvons tout de suite notre sélection d'été.
Sie kamen am Abend bei Tag und bei Nacht. Du schautest nur fragend, was habt ihr nur gemacht?
28 ans après la chute du régime communiste, l'un des derniers tabous de l'ex-RDA est en train de se briser, celui des adoptions forcées, des bébés volés à leurs parents, le plus souvent pour des raisons politiques, afin de les confier à des familles jugées fidèles au parti. Les historiens qui s'emparent lentement du sujet estiment que plusieurs milliers d'enfants seraient concernés. Une histoire trop longtemps tue et réveillée par une pétition déposée au Bundestag, l'association des enfants volés de la RDA réclame désormais la mise en place d'un organisme officiel de recherche et l'accès libre aux archives dans le Land de Saxe, au sud de Berlin. C'est le reportage de Julien Méchaussy.
Cette chanson retrace mon destin et celui de nombreux autres parents. L'artiste a su mettre des mots sur tout ce que nous avons vécu. Les documents falsifiés, manipulés, les enfants qui nous ont été enlevés. C'est l'histoire de notre vie.
Cette histoire mise en musique par le chanteur Rüdiger Kirsch, c'est celle d'Andreas Lacke. Dans son petit appartement de Leipzig, Andreas ne peut retenir ses larmes lorsqu'il regarde le clip sur son téléphone portable. Des larmes qui racontent près de 30 années de souffrance et d'incertitude. En 1984, Andreas tente de fuir la RDA avec sa femme enceinte. Il est condamné à 4 ans et 7 mois de prison. Sa femme, laissée libre, accouche quelques mois plus tard un fils qui leur est enlevé à l'hôpital pour être remis à une famille fidèle au régime, sans que celle-ci ne soit au courant du destin des parents naturels. Après la chute du mur, Andreas met tout en œuvre pour retrouver ce fils perdu, avec pour seul document une photo de l'enfant prise par sa mère à l'hôpital.
Chaque fois que vous voyez dans la rue une personne qui a l'âge de votre enfant, vous vous dites « c'est peut-être le nôtre ». Ne pas savoir, être enfermé dans l'incertitude, ça nous rend malade. Nous sommes nombreux à vivre des aides sociales. Non pas parce que nous ne voulons pas travailler, mais parce que nous sommes détruits sur le plan psychologique et physique. Tout ce que veulent ces familles, c'est juste savoir ce que sont devenus leurs enfants. Cette question les hante jour et nuit.
Sa femme, entre-temps décédée, Andreas se heurte au silence de l'administration. Personne ne veut croire à un système d'adoption forcée. L'Allemagne réunifiée veut regarder de l'avant. Il s'adresse alors aux médias et retrouve, grâce à une émission télévisée, son fils Marco en 2013. Mais le combat d'Andreas pour la vérité n'en est pas pour autant terminé. Au cours de toutes ces années, il a rencontré de nombreuses autres familles avec le même destin. Il crée alors une association et un site internet, Les Enfants Volés de la RDA.
Nous leur expliquons comment entamer leurs recherches, à qui elles peuvent s'adresser, les administrations où elles peuvent déposer leurs demandes, comme par exemple au bureau des archives de l'état civil. Les familles disposent au départ de si peu d'informations sur leurs enfants qu'elles ne savent pas par où commencer. Et nous pouvons les aider en leur disant « Allez voir les agences d'adoption, les hôpitaux, nouez des contacts dans l'espoir de tomber sur la bonne personne qui pourra vous aider. »
Lorsque Catherine Unholz découvre l'association, c'est un énorme soulagement. Son appartement est situé à quelques minutes en voiture de celui d'Andreas, avec qui elle se lie d'amitié. Dans les années 80, elle a accouché de 2 enfants à l'âge de 17 et 19 ans, des enfants qui lui ont été enlevés à l'hôpital. Contrairement à Andreas, elle ne sait toujours pas ce qu'ils sont devenus.
Je me suis dit que je n'étais pas toute seule. J'ai toujours pensé que j'étais la seule personne à avoir vécu ça. Et là, d'un coup, j'ai découvert que c'était arrivé à tellement d'autres parents. Nous partageons tous le même destin. Nous pouvons nous entraider, échanger sur nos expériences et essayer de vivre avec cela. Pour ne pas sombrer complètement, j'ai tout refoulé, tout enfoui au plus profond de moi-même. Autrement, je n'aurais jamais pu continuer à vivre.
Catherine Runholz a vécu deux fois le même scénario. Juste après l'accouchement, les médecins lui ont dit que le bébé était mort-né, une histoire partagée par de nombreux autres parents. Si Catherine Runholz ne dispose pas de preuves irréfutables que ses enfants lui ont été volés, les documents officiels qu'elle a difficilement pu rassembler sont troublants. La taille, le poids des enfants diffèrent d'un document à l'autre. Elle retournait aussi voir son gynécologue de l'époque pour lui montrer les actes de décès, et pour le médecin, pas de doute, les documents ont été falsifiés. Et beaucoup de victimes sont persuadées que derrière leur récit se cache un système organisé. Petra Köpping, la ministre des Affaires sociales du Land de Saxe, fait partie des rares responsables politiques à s'engager aux côtés des victimes.
J'ai participé à plusieurs réunions au cours desquelles il m'a été rapporté que des personnes impliquées directement dans ces adoptions forcées continuent encore aujourd'hui à travailler dans différentes administrations. Les familles ne font plus confiance à l'État, elles se disent « l'État continue de nous cacher la vérité, personne ne peut nous aider ». Donc oui, nous avons besoin d'un organisme indépendant pour aider et ces familles et rétablir la confiance.
Près de 30 ans après la réunification, l'Allemagne est encore bien loin d'avoir fait toute la lumière sur l'un des derniers tabous de l'ancien régime communiste.
Il s'appelle Tony Iwobi et c'est le premier sénateur noir élu en Italie. Sauf que son parti, eh bien, c'est la Ligue du Nord de Matteo Salvini, ouvertement anti-immigration. Et pourtant, le Nigérian justifie ce choix logique, dit-il. Lui qui est arrivé en Italie en 1976 et s'est engagé depuis 25 ans aux côtés du parti xénophobe. Cécile Debarge.
C'est une poignée de main surprenante. Sur une photo prise en pleine campagne électorale, on voit à gauche l'Italien d'origine nigériane Tony Iwobi et à droite Matteo Salvini, leader de la Ligue du Nord, un parti qui défend une ligne anti-immigration qui arbore un t-shirt blanc sur lequel il est écrit « Stop à l'invasion ». Tony Iwobi ne voit là rien d'étonnant. Ses mots durs contre les immigrés, il les assume parfaitement puisqu'il est responsable des questions d'immigration au sein du parti où il milite depuis 25 ans. Et de préciser aussitôt, nous ne sommes pas contre les personnes mais contre les personnes en situation irrégulière. Un message qu'il martèle sur un t-shirt qu'il a porté pendant la campagne, pas raciste, mais réaliste. À 62 ans, cet ingénieur de formation dirige son entreprise d'informatique dans la région de Bergame, où il vit et s'est installé après son arrivée en Italie pour étudier à l'université de Pérouse en 1976. À l'origine, c'est le projet de fédéralisme fiscal de la Ligue du Nord qui le séduit et guide sa carrière politique entamée dès 1993 comme conseiller municipal de la petite ville de Spirano. À ses côtés au Sénat, le vice-président de la Chambre haute, Roberto Calderoli, qui avait défrayé la chronique en 2013 en comparant l'ancienne ministre de l'intégration, Cécile Kyenge, à un orang-outan.
Plus de 10 300 morts, 2 millions de réfugiés et de personnes déplacées, une économie locale dévastée, c'est aujourd'hui la réalité du Donbass dans l'est de l'Ukraine. Et pourtant, les habitants trouvent encore la force de rire. Un premier concours de sketch a même été organisé à Kramatorsk, la capitale régionale. C'est ce que nous raconte Sébastien Gobert.
Sur la scène, les cosmonautes de Baïkonour sont nerveux, mais concentrés. Deux d'entre eux sont en blouse orange, stoïque, l'air impassible. Un troisième est déguisé en abeille et virevolte joyeusement. Leur comique de situation ravit le public dans une salle remplie. Tous trois sont ouvriers d'une usine métallurgique de Mariupol, le port sur la mer d'Azov. C'est leur première prestation en public. Ils ont travaillé dur pour se préparer et ça marche. Les cosmonautes font partie des 12 équipes à prendre part à la Liga Smira, la Ligue du Rire en russe. Inspirée d'une tradition soviétique, la Liga Smira est très populaire en Ukraine. Les vainqueurs des sélections régionales se produisent ensuite sur une des principales chaînes de télévision. Mais depuis 2014, le Donbass ne prenait plus part au concours. Volodymyr Kos est l'un des organisateurs.
Les jeunes de la région ont été coupés de la vie culturelle du reste du pays à cause de la guerre. La Ligue du Rire leur donne l'occasion de revenir dans le jeu et de monter des projets, peut-être de commencer une carrière.
Ce samedi soir, c'est aussi l'occasion pour le public de rire un peu et d'oublier les tracas du quotidien. Certains des jeunes humoristes parlent de la guerre et de la crise économique avec légèreté, ironie et dérision. De quoi peut-être relativiser les difficultés du quotidien, le temps d'une soirée. À la fin du spectacle, l'enthousiasme est palpable parmi les participants. Chaque équipe s'est vue attribuer un entraîneur pour affiner leur sketch et préparer les prochaines sélections. Ruslan, l'un des cosmonautes de Baïkonour, est aux anges.
On est vraiment soulagés, on ne s'attendait pas à ce que le public rigole autant à nos blagues, pour être honnête. En plus, on a eu le coach qu'on voulait dès le début, donc c'est parfait. Bon, maintenant, il faut qu'on travaille encore un peu plus pour s'améliorer.
Pour Ruslan et ses compères, retour à Mariupol dès le lendemain, et à l'usine le jour d'après. Une réalité pas toujours facile, mais qui leur donne de l'inspiration pour leur sketch. Et peut-être qu'à travers la Lega Smira, les Ukrainiens pourront penser au Donbass d'une autre manière, au détour d'une plaisanterie.
C'est une donnée qui n'étonnera pas tous ceux qui se sont déjà rendus en Albanie, à Tirana. Plus accoutumé aux dernières places des classements, l'Albanie trône en tête de celui du nombre de cafés par habitant. Avec un café pour 152 personnes, le pays a même ravi la première place à l'Espagne, malmenée par la récession économique. Il faut dire que dans le pays, le café est une institution et un lieu incontournable de la vie sociale. Reportage Louis Seyé.
Comme tous les jours, Emiliano a retrouvé son ami Artan dans l'un des cafés du quartier étudiant de Tirana. Assis en terrasse afin de garder un œil sur les gens qui défilent dans la rue, les deux jeunes hommes discutent avec entrain autour d'un espresso. Il est 11h et en ce jeudi matin, toutes les tables autour des deux amis sont occupées. Une situation qu'Emiliano trouve tout à fait normale.
Pour nous les Albanais, c'est dans nos habitudes. Nous donnons tous nos rendez-vous dans un café pour discuter aussi. Parfois on y va jusqu'à 6 ou 7 fois par jour et au minimum c'est 2 fois dans la journée.
Malgré la montée de l'individualisme, le café est ancré dans le quotidien des Albanais et reste l'un des lieux incontournables de la vie sociale. Autour d'un café à l'italienne ou d'un raki, toutes les générations s'y retrouvent et s'engagent souvent dans des discussions des plus importantes. Entretiens d'embauche informels, négociations d'affaires commerciales ou même arrangements de mariage prennent généralement place dans l'enceinte du café, comme l'explique Emiliano.
Dans les cafés, on parle de beaucoup de choses et surtout de sujets sérieux, notamment de notre vie personnelle. Par exemple, si tu veux avoir une conversation sérieuse avec une fille, tu l'invites dans un café. Ou si tu dois avoir un entretien avec quelqu'un pour obtenir un travail ou autre chose d'important, ça se passe dans les cafés. Il n'y a pas d'autre lieu. Les cafés sont le seul lieu de rencontre.
Non loin du centre de la capitale, ici profite d'un soleil printanier autour d'un cappuccino. Avec son amie Anida, elles ont l'habitude de se retrouver une ou deux fois par jour dans le clinquant établissement Ange, situé à quelques pas de chez elles. Pour toutes les deux, il est presque impensable d'inviter des amis boire un café chez elles. En Albanie, la maison reste un lieu réservé à la famille.
J'aime beaucoup aller au café avec mes amis, j'ai pris l'habitude de m'y rendre souvent. À la maison, on ne peut pas rencontrer ses amis, n'est-ce pas? Et c'est bien mieux de boire un café en bonne compagnie. Nous, les Albanais, on se préoccupe beaucoup des autres, on se voit tous les jours. C'est un des petits plaisirs du quotidien.
La moitié des 18 795 bars et cafés recensés en Albanie se situent dans la capitale. Si à Tirana, de nombreux cafés sont fréquentés tant par les hommes que par les femmes, c'est bien loin d'être le cas des petites villes et villages du pays. Les traditions très patriarcales y ont la vie dure et les cafés de la campagne albanaise sont avant tout un espace masculin. Une situation qui désespère Anida.
Je le vois quand je voyage dans le pays, c'est vrai, dans beaucoup de villages, la mentalité est très conservatrice. Il n'y a que des hommes, ils ne laissent pas les femmes aller au café et ils regardent bizarrement ceux qui viennent de la ville. Mais heureusement, c'est très différent à Tirana.
Dans la rue peu animée où se retrouvent Anida et Issi, pas moins de 9 cafés et bars se succèdent sur à peine 200 mètres. Au total, avec leurs 726 000 places, les bars et restaurants du pays pourraient accueillir simultanément près du quart de la population albanaise. Ce nombre record de cafés n'étonne pas les deux jeunes femmes. D'après elles, si les cafés ont autant de succès, c'est surtout à cause du chômage et de la grande précarité de l'emploi qui touche la société albanaise et en particulier les jeunes.
Il y a beaucoup de chômage, c'est vrai. La majorité des nouveaux commerces, ce sont des cafés. On gagne peu d'argent. Par exemple, moi, depuis octobre, ça fait 6 mois que j'ai fini mes études et je n'ai toujours pas trouvé de boulot. C'est très difficile.
Sirotant un café turc à une terrasse du centre historique de Tirana, l'intellectuel Fatos Lubonia évoque des raisons plus profondes que le chômage. Pour lui, dans un pays où la qualité de l'information reste limitée,
Les cafés sont un espace où la parole se libère. Des habitudes héritées de la dictature qu'a connue le pays jusqu'en 1991.
Le chômage influence, bien sûr. J'ai toujours dit que, en temps du régime, les vrais médias, c'était les cafés. Les gens se rencontraient dans les cafés et ils changeaient d'informations, les choses qui ne se disaient dans les médias du régime. Alors, les cafés sont restés le lieu des vraies informations. Même maintenant, avec les médias contrôlés par les oligarques.
Milan, Athènes, Paris, Oslo. En Albanie, les cafés portent souvent les noms de villes étrangères. Après la crise de 2008, des dizaines de milliers d'Albanais ont dû revenir au pays. Pour ces derniers, l'ouverture d'un bar ou d'un café au rez-de-chaussée de leur maison a été le moyen de faire rentrer un peu d'argent. À l'entrée du Ancona, un bar d'un quartier populaire de Tirana, des hommes jouent aux cartes. Dans le fond, Naïm prépare un pot-au-feu sur une cuisinière à même le sol. S'il survit grâce aux modestes revenus de son établissement, le nombre record de cafés dans le pays est loin de le faire sourire.
Il n'y a pas de boulot, les gens ne travaillent pas. Les gens prennent un café pour 35 centimes d'euros et ils restent 4 heures avant de rentrer à la maison. Quand il n'y a pas de travail, on reste au café, c'est tout. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'économie.
Les liens profonds qui unissent les Albanais et les cafés ne datent pas d'hier. En 1930, un philanthrope local finançait l'une des premières bibliothèques publiques du pays. Comme l'on peut toujours lire sur les murs de l'établissement aujourd'hui, il avait ainsi souhaité que les jeunes hommes sortent des cafés et se tournent vers le livre.
Music. Bonjour Vincent Teval.
Bonjour Catherine, bonjour à tous.
Vous nous proposez aujourd'hui un petit tour du côté du rock psychédélique turc.
Eh oui, avec un nouvel âge d'or en quelque sorte pour ce rock psychédélique turc des années 60 et 70. C'est en tout cas le beau programme mis en œuvre par le groupe Altingun sur son premier album, On, qui paraît aujourd'hui. Altingun, qu'on peut donc traduire par âge d'or en turc, c'est un projet initié par des musiciens hollandais et en premier lieu par le bassiste Jasper Verhulst, qui accompagne habituellement le chanteur Jaco Gardner sur scène. Et c'est après l'un de ses concerts à Istanbul que le jeune homme découvre cette scène des années 60 et 70 quand nombre d'artistes turcs associés morceaux et instruments traditionnels à des sonorités occidentales. Au fil des mois, Altingun devient un sextet dont le répertoire est exclusivement composé de reprises de chansons de cette époque. Beaucoup sont signés Neset Ertas, grand nom du folk turc disparu en 2012. C'est le cas du titre que je vous propose.
Il y avait Steven Elsley. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. À demain.